Matière à réflexion. Aujourd'hui, nous allons évoquer un texte d'un des plus grands poètes romantiques français qui s'appelle Gérard de Nerval. J'ai déjà eu l'occasion d'évoquer ce nom, mais aujourd'hui, on va s'intéresser à un extrait d'un ouvrage qui s'appelle Les Nuits d'Octobre et qui est apparu en novembre 1852 dans une revue qui s'appelait L'Illustration. Comme ce texte qui paraît très simple est en réalité très complexe, je vais me permettre de faire une petite introduction d'histoire littéraire, hein, pour mieux comprendre la position de Nerval, par rapport à la censure qui petit à petit s'établit. Donc, vous voyez, la parution, c'est 1852. Le texte, bien sûr, est antérieur. On a donc deux régimes réactionnaires qui se sont établis en France, celui de Louis XVIII et de Charles X, puis enfin celui de Louis-Philippe, même s'il est moins astreignant, évidemment, que celui de la Restauration. Et puis, 52, ben, on arrive, bien sûr, au Second Empire et au coup d'État de celui qu'on appellera Napoléon III. Et la première partie du règne de Napoléon III était sous le signe de la censure. Donc, au début du XIXe siècle, le romantisme, c'est d'abord une réaction contre la révolution. Hein, c'est l'individu qui se révolte contre les groupes, le groupe en général. Le plus bel exemple, c'est Chateaubriand. Hein, vous avez peut-être déjà vu d'ailleurs Chateaubriand représenté sur son rocher, le rocher du Grand Bé à Saint-Malo, où il ne veut entendre que le vent et la mer, disait-il. Donc, il est là, debout, on le voit de dos. Les cheveux sont complètement balayés par une tempête et devant lui, la mer est déchaînée. Bon, ça, c'est ce romantisme, je dirais, réactionnaire qui se met en place. Mais rapidement, d'autres écrivains, et parmi eux Victor Hugo, vont se tourner non plus vers cette nature, évidemment, qui provoque chez eux le mal du siècle, mais vont se tourner vers les classes sociales défavorisées. Vous avez peut-être lu Les Mystères de Paris de Genesius, par exemple, hein, qui représente le peuple en disant il faut en parler puisqu'il n'a aucun député. Pensez aussi aux misérables. Mais ça ne plaît pas du tout, évidemment, aux politiques, hein, aux politiques réactionnaires qui s'opposent vigoureusement à ce romantisme populaire. Et ils prônent, eux, le retour au classicisme, un classicisme du XVIIe presque. Les choses se gâtent en 1850. L'amendement, rien sait du nom de celui qui l'a déposé à l'Assemblée, impose une taxation même sur les romans feuilletons, jugeant cette forme littéraire trop subversive, car elle attaque, disait-il, la famille, le foyer domestique et l'autorité paternelle. On se croirait déjà au temps de Pétain, travail, famille et patrie. Le réalisme est proscrit, et ce n'est que le début d'une censure plus douloureuse de la presse qui allait intervenir quelques années plus tard. Non seulement Nerval parvient à détourner cette interdiction, mais il pose aussi le problème du réalisme. Est-ce qu'on peut représenter la réalité par des mots? Donc là, on n'ira pas très loin dans ce sens, mais sachez que ça fait partie aussi de son intention lorsqu'il écrit Les Nuits d'Octobre. D'ailleurs, il disait à un moment donné, dans l'art, ce qui est le vrai, c'est le faux. Le réel, d'une certaine manière, doit être travaillé de l'intérieur pour donner sa vérité. Et c'est assez exact pour ceux qui s'intéressent à l'art. Ils savent très bien que la reproduction fidèle, photographique, sans choix de la réalité, nous écarte de la réalité. Dans ce texte, il va aussi mêler ses rêves, c'est déjà surréaliste, à sa déambulation dans Paris et dans le Valois. Il admire aussi, il ne faut pas l'oublier, un autre écrivain dont il a beaucoup parlé, c'est Rétif de la Bretonne, qui, lui, quelques années plus tôt, s'en allait chimérer dans Paris. C'était son expression. Voilà, cette introduction était un petit peu longue, mais je pense qu'elle était quand même nécessaire pour mieux comprendre, évidemment, les intentions de l'auteur. Pour résumer, il est arrivé à Meaux, il a quitté Paris, hein. Il est arrivé à Meaux parce qu'on lui a dit qu'il y avait un spectacle tout à fait extraordinaire de cirque, etc. Et de Meaux, donc, il veut se rendre évidemment à Mortefontaine, là où il a été élevé pendant une bonne partie de son enfance. Mais la pluie est telle que les chemins qu'il prenait habituellement étaient trop boueux pour pouvoir les utiliser. Alors il change d'itinéraire et il décide de passer par Nanteuil et Crépy. Voilà, je commence. Nous arrivons à Nanteuil par un temps abominable. Il devint impossible de traverser les bois. Quant à prendre des voitures à volonté, je connais trop les chemins vicinaux du pays pour me risquer. Donc là, il évoque, hein, les chemins pour aller directement vers Avignon. Le voilà, Nanteuil, une guerre sympathique pour lui. Il dit Nanteuil est un bourg montueux qui n'a jamais de remarquable que son château, désormais disparu. Je m'informe à l'hôtel des moyens de sortir d'un pareil lieu et on me répond Prenez la voiture de Crépy qui passe à 2 heures, cela vous fera faire un détour, mais vous trouverez ce soir une autre voiture qui vous conduira sur les bords de l'Oise. 10 lieues encore pour voir une pêche à la loutre. Il était si simple de rester un mot, dans l'aimable compagnie des saltimbanques et de la Vénitienne et de l'Espagnole, etc. Oui, je fais une petite parenthèse, le but de ce voyage vers Creil, c'était d'aller chasser la loutre. Je m'arrêterai un petit peu là sur cet animal assez curieux, en faisant remarquer que loutre, dans notre région, ça devient facilement loutre, voire la louloute. Hein. Donc il allait chercher la louloute et chacun comprendra de qui il parlait. Trois heures plus tard, il arrive à Crépy-en-Valois. Les portes de la ville sont monumentales et surmontées de trophées dans le goût du XVIIe siècle. Le clocher de la cathédrale, alors les habitants de Crépy vont s'étonner d'entendre parler d'une cathédrale, ils parlent de cathédrale à propos de Saint-Thomas. Le clocher de la cathédrale est élancé, taillé à 6 pans et découpé à jour comme celui de la vieille église de Soissons. Alors, encore une petite remarque, à Soissons, c'est tout simplement Saint-Jean-des-Vignes, dont on voit évidemment la dentelle de pierre se détacher à l'horizon. Il s'agissait d'attendre jusqu'à 8 heures la voiture de correspondance. L'après-midi, le temps s'est éclairci, j'ai admiré les environs assez pittoresques de la vieille cité valoise et la place du marché qu'on y crée en ce moment, ce qui était tout à fait exact d'ailleurs. Les constructions sont dans le goût de celles de Meaux. Ce n'est plus du parisien, ce n'est pas encore flamand. On construisait aussi une église dans un quartier signalé par un assez grand nombre de maisons bourgeoises. Petite remarque là en passant, il s'agit de l'église Saint-Denis, donc qui était restaurée à cette période. Un dernier rayon de soleil qui teignait de rose la face de l'ancienne cathédrale m'a fait revenir dans le quartier opposé. Il ne reste malheureusement que le chevet, la tour et les ornements du portail m'ont paru remonter au XIVe siècle. J'ai demandé à des voisins, mais pourquoi on s'occupait de construire une église moderne au lieu de restaurer un si beau monument? Je répète, il s'agit de Saint-Thomas. C'est, m'a-t-on dit, parce que les bourgeois ont principalement leur maison dans l'autre quartier, et cela les dérangerait trop de venir à l'ancienne église. Au contraire, l'autre serait sous leurs mains. C'est en effet, dis-je, bien plus commode d'avoir une église à sa porte. Mais les vieux chrétiens n'auraient pas regardé à 200 pas de plus pour se rendre à une vieille et splendide basilique. Aujourd'hui, tout est changé. C'est le bon Dieu qui est obligé de se rapprocher de ses paroissiens. Le chapitre suivant est intitulé En prison. Certes, je n'avais rien dit d'inconvenant ni de monstrueux. Aussi, la nuit arrivant, j'ai cru bon de me diriger vers le bureau des voitures. Il fallait encore attendre une demi-heure. J'ai demandé à souper pour passer le temps. Je finissais une excellente soupe et je me tournais pour demander autre chose lorsque j'aperçus un gendarme qui me dit « Vos papiers ». J'interroge ma poche avec dignité. Le passeport était resté à Meaux. Là, on m'avait demandé à l'hôtel pour m'inscrire et j'avais oublié de reprendre le lendemain matin. La jolie servante à laquelle j'avais payé mon compte n'y avait pas pensé non plus. Eh bien, dit le gendarme, vous allez me suivre chez monsieur le maire. Le maire? Encore si c'était le maire de Meaux, mais c'est le maire de Crépy. L'autre eût certainement été plus indulgent. D'où venez-vous? De Meaux. Où allez-vous? À Creil. Dans quel but? Dans le but de faire une chasse à la loutre. Et pas de papier, à ce que dit le gendarme. Je les ai oubliés un mot, lui répondis-je. Je sentais moi-même que ces réponses n'avaient rien de satisfaisant. Aussi, la mère me dit paternellement, « Eh bien, vous êtes en état d'arrestation. Et où coucherai-je? À la prison. Diable, mais je crains de ne pas être bien couché. C'est votre affaire. Et si je payais 1 ou 2 gendarmes pour coucher à l'hôtel? Ce n'est pas l'usage. Ah, cela se faisait au XVIIIe siècle. Plus d'aujourd'hui. Je suivis les 2 gendarmes assez mélancoliquement. La prison de Crépy est ancienne. Je pense même que le caveau dans lequel on m'a introduit date du temps des croisades. Petite remarque en passant, il s'agit des 2 fenêtres qui sont avec des barreaux et qui donnent sur la terrasse juste à côté du musée de l'archerie actuelle. Ce caveau donc a été soigneusement recrépi avec du béton romain. J'ai été fâché de celui que j'aurais aimé à élever des rats ou apprivoiser des araignées. Est-ce humide, dis-je au geôlier. Très sec, au contraire. Aucun de ces messieurs ne s'en est plaint depuis les restaurations. Ma femme va vous faire un lit. Pardon, je suis parisien. Je le voudrais très doux. On vous mettra 2 lits de plume. Est-ce que je ne pourrais pas finir de souper? Le gendarme m'a interrompu après le potage. Nous n'avons rien. Mais demain, j'irai vous chercher ce que vous voudrez. Maintenant, tout le monde est couché à Crépy. À 8h30. Il en est 9. La femme du geôlier avait établi un lit de sang dans le caveau, comprenant sans doute que je paierais bien la pistole. Oui, alors, payer la pistole, c'est une expression de cette période qui dit que si on veut avoir une prison confortable, un séjour un peu plus confortable à la prison, ben, faut payer. Il faut donner de l'argent en plus pour son confort. On appelle ça payer à la pistole. Outre les lits de plumes, il y avait un édredon. J'étais donc dans les plumes de tous les côtés. Le chapitre suivant s'appelle Autre rêve. Alors là, on va changer complètement. On va passer effectivement dans une atmosphère onirique, dans le rêve. Et c'est à ce moment-là, évidemment, que va revenir un certain nombre d'images du passé, mais qui sont aussi très présentes. Il s'agit de personnages, évidemment, qui assurent la censure pendant les périodes historiques que Nerval traverse. On va retrouver des personnalités tout à fait connues, mais qui étaient aussi des professeurs d'université. N'oublions pas que Gérard de Nerval avait passé son bac dans des conditions fort solennelles qui n'ont plus rien à voir avec celles que nous connaissons maintenant. J'ai eu à peine 2h30 d'un sommeil tourmenté. Je comparaissais devant un tribunal qui se dessinait au fond d'une ombre épaisse, imprégnée au bas d'une poussière scolastique. Le président avait un faux air de Monsieur Nisard. Monsieur Nisard, c'était un des politiques qui fustigeaient le romantisme et qui voulaient revenir à une culture vraiment classique. Les deux assesseurs ressemblaient à Monsieur Cousin et à Monsieur Guizot, mes anciens maîtres. Alors bon, c'était des hommes à la fois des historiens, des hommes, des philosophes, des hommes politiques, des hommes d'État. Et Cousin comme Guizot, d'ailleurs, ont participé à l'élaboration d'un programme d'enseignement public. Je reprends ma lecture. Les deux assesseurs ressemblaient à M. Cousin et à M. Guizot, mes anciens maîtres. Je ne passais plus comme autrefois devant eux mon examen à la Sorbonne. J'allais subir une condamnation capitale. Sur une table étaient étendus plusieurs numéros de magazines anglais et américains, une foule de livraisons à 4 and 6 pence, où apparaissaient vaguement les noms d'Edgar Poe, de Dickens, etc. Mais il y avait aussi trois spectres accusateurs qui me jetaient ces mots. Fantaisiste, réaliste, essayiste. Je saisis quelques phrases de l'accusation formulées à l'aide d'un organe qui semblait être celui de M. Patin. M. Patin, c'est un professeur de lettres qui régnait de façon très autoritaire sur la Sorbonne. Voilà ce qu'il dit, ce M. Patin. Du réalisme au crime, il n'y a qu'un pas, car le crime est essentiellement réaliste. Le fantaisisme conduit tout droit à l'adoration des monstres. L'essayisme amène ce faux esprit à pourrir sur la paille humide des cachots. On commence par visiter Pau Niquet et on en vient à adorer une femme à cornes et à chevelure de mérinos. On finit par se faire arrêter à Crépy pour cause de vagabondage et de troubadourisme exagéré. Là encore une petite remarque. On commence par visiter Pau Niquet. Pau Niquet, c'était ce grand cabaretier parisien qui avait table ouverte dans le quartier des Halles, dont la fréquentation était un mélange social assez hétéroclite, et puis surtout où on trouvait des gens qui consommaient d'une façon excessive. Voilà. J'essayais de répondre, j'invoquais Lucien Rabelais, Erasme et autres fantaisistes classiques. Et enfin, il se mit à jurer, alors là je fais une petite note, je jure de renoncer à des œuvres maudites par les Sorbonnes, par l'Institut. Je n'écrirai plus que de l'histoire, de la philosophie, de la philologie et de la statistique. On semblait s'en douter, eh bien, je ferai des romans vertueux et champêtres, je viserai au prix de poésie, de morale, je ferai des livres contre l'esclavage et pour les enfants. Je vais même en rester une de tragédie que j'ai écrite en ce monde et dont le souvenir me revient. Et puis d'un seul coup, les fantômes disparus en jetant des cris plaintifs. Voilà, vous voyez, ce passage est complètement surréaliste, bien que, évidemment, bah, je crois qu'un psychanalyste se serait régalé à analyser, évidemment, ce texte. Le chapitre suivant s'intitule « Moralité ». Donc là, il revient dans la réalité. « Nuit profonde. Où suis-je ? Bah, au cachot. Imprudent. Voilà pourtant où t'as conduit la lecture de l'article anglais intitulé « La clé de la rue ». Tâche maintenant de découvrir la clé des champs. La serrure a grincé, les barres ont résonné. Le geôlier m'a demandé si j'avais bien dormi. Très bien, très bien. Il faut être poli. Comment sort-on d'ici? Eh bien, on écrira à Paris, et si les renseignements sont favorables, au bout de 3 ou 4 jours, est-ce que je pourrais causer avec un gendarme? Le vôtre viendra tout à l'heure. Le gendarme, quand il entra, me parut un dieu. Il me dit, ah, vous avez de la chance. En quoi? C'est aujourd'hui la correspondance avec Senlis. Vous pourrez paraître devant le substitut. Allons, levez-vous. Et comment va-t-on à Senlis? À pied. 5 lieues, ce n'est rien. Oui, mais s'il pleut, entre 2 gendarmes, sur des routes détrempées, vous pouvez prendre une voiture. Il m'a bien fallu prendre une voiture. Une petite affaire de 11 francs, 2 francs à la pistole. En tout, 13. Oh, fatalité. Du reste, les 2 gendarmes étaient très aimables et je me suis mis fort bien avec eux sur la route en leur racontant les combats qui avaient eu lieu dans ce pays du temps de la Ligue. En arrivant en vue de la tour de Montpellier, mon récit devint pathétique. Je peignis la bataille, j'énumérais les escadrons de gendarmes qui reposaient sous les sillons. Ils s'arrêtèrent 5 minutes à contempler la tour et je leur expliquais ce que c'était qu'un château fort de ce temps-là. Histoire, archéologie, philosophie, vous êtes donc bonne à quelque chose. Il fallut monter à pied au village de Montépilois, situé dans un bouquet de bois. Là, mes 2 braves gendarmes de Crépy m'ont remis aux mains de ceux de Senlis et ils leur ont dit « Il a pour 2 jours de pain dans le coffre de la voiture. »« Si vous voulez déjeuner, » m'a-t-on dit avec bienveillance. « Oh pardon, je suis comme les Anglais, je mange très peu de pain. » On s'y fait. Les nouveaux gendarmes semblaient moins aimables que les autres. L'un d'eux me dit « Nous avons encore une petite formalité à remplir. » Il m'attacha des chaînes comme un héros de l'ambigu et ferma les fers avec 2 cadenas. « Tiens, dis-je, pourquoi ne m'a-t-on mis des fers qu'ici ?»« Ah, parce que les gendarmes étaient avec vous dans la voiture et que nous, hein, nous sommes à cheval. » Arrivé à Senlis, nous allâmes chez le substitut et... Étant connu dans la ville, je fus relâché tout de suite. L'un des gendarmes m'a dit « Cela vous apprendra à oublier votre prince fort une autre fois quand vous sortirez d'ici ou quand vous sortirez de votre département. » Avis au lecteur. J'étais dans mon tort. Le substitut a été fort poli, ainsi que tout le monde. Je ne trouve pas trop cher le cachot et les fers. Ceci n'est pas une critique de ce qui se passe aujourd'hui. Cela s'est toujours fait ainsi. Mais je raconte cette aventure que pour demander que, comme pour d'autres choses, on tente quand même un progrès sur ce point. Si je n'avais pas parcouru la moitié du monde et vécu avec les Arabes, les Grecs, les Persans, dans les caravansérails ou sous les tentes, j'aurais eu peut-être un sommeil plutôt troublé, ou beaucoup plus troublé encore, et un réveil plus triste pendant ce simple épisode d'un voyage de mots à créer. Il est inutile de dire que je suis arrivé trop tard pour la chasse à la loutre. Mon ami, le limonadier, après sa chasse, était parti pour Clermont afin d'assister à un enterrement. Sa femme m'a montré la loutre empaillée en complétant une collection de bêtes et d'oiseaux du Valois qu'il espérait vendre à quelque Anglais. Voici l'histoire fidèle de 3 nuits d'octobre qui m'ont corrigé des excès d'un réalisme trop absolu. J'ai du moins tout lieu de l'espérer.
C'était Matière à réflexion. Extrait d'un ouvrage « Les nuits d'octobre » paru en novembre 1852 de Gérard de Nerval. Lecture Jean-Marc Vasseur.